moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
Contre culture et contre information, c'est www.libradio.org.
Voilà, voilà, voilà. Donc nous sommes toujours en direct en public depuis la salle communale de Plein Palais, à l'occasion du 75e anniversaire de l'ASLOCA. On le rappelle, l'ASLOCA, c'est l'association suisse des locataires. Nous sommes en compagnie d'Irène Buch. Bienvenue à toi, Irène.
Merci.
Tu es juriste à l'ASLOCA et on dit juriste parce que l'on ne peut pas dire l'autre mot, mais tu vas nous dire pourquoi.
Non, simplement, le titre d'avocat ne peut pas être utilisé dans un cadre comme celui de l'ASLOCA. Donc, nous sommes titulaires du brevet d'avocat, mais nous travaillons comme juristes et mandataires professionnellement qualifiés devant le tribunal des beaux et loyers.
Voilà, mais ça, c'était bien qu'on le précise, comme ça, c'est clair pour tout le monde. On dit juriste, mais en fait, nous avons affaire à une avocate. Méfions-nous. Depuis 32 ans à l'ASLOCA ?
Exactement, oui, oui.
Depuis 32 ans à l'ASLOCA.
32 ans, avec plaisir, et j'y reste encore volontiers.
À quel moment est-ce qu'on se dit, je vais à l'ASLOCA pour ces brevets d'avocat en poche ?
Non.
Je cherche, non.
Non,
comment
non, j'ai fini ma licence de droit, et je me suis dit, je veux bien faire un stage d'avocat, parce qu'on a aussi une étude d'avocat en parallèle, hein, donc le stage ne se fait pas à l'ASLOCA, mais à l'étude d'avocat. Alors, je voulais bien faire un stage d'avocat, mais pas n'importe où. Et mon choix s'est porté sur, effectivement, l'étude qui allait avec l'ASLOCA, enfin, qui travaillait en parallèle avec l'ASLOCA. Et puis, j'ai postulé à d'autres endroits, mais c'était pour moi clair que je ne voulais pas aller dans une étude traditionnelle. Donc, j'ai eu la grande chance d'être engagée à l'ASLOCA par Nils de Dardel, d'ailleurs, en 1985, de faire mon stage d'avocat et ensuite d'y rester. J'ai à plusieurs reprises pensé partir, faire autre chose. Et puis, à la réflexion faite, je me suis dit, mais je suis vraiment bien à l'ASLOCA parce que je peux défendre les valeurs qui sont les miennes tout en étant au service des locataires. Voilà, donc je ne suis jamais partie parce que je m'y plais toujours. Et voilà.
Très bien, bah 32 ans, ça veut dire que, voilà, en tout cas, il y a une forme de fidélité là qui est assez exceptionnelle. Quelles sont-elles ces valeurs qui t'ont conduite et qui t'ont gardée au sein de l'ASLOCA ?
Bon, je vais dire peut-être aussi que je suis membre du Parti Socialiste et que je suis députée aujourd'hui. Mais disons qu'au départ, j'avais déjà ces valeurs-là de solidarité, de défense des plus faibles, parce que le locataire est la partie faible au contrat. Et de faire changer la société de manière un peu globale. Ça, ça faisait partie d'idéal que j'avais. Et au sein de l'ASLOCA, c'est vrai qu'on peut bien défendre ses valeurs parce qu'on défend chaque locataire à ses problèmes. On essaie de les résoudre. Et de cette manière-là, on permet à une personne aussi de trouver une solution à son problème. Mais globalement aussi, la défense des locataires, elle est fondamentale, la défense collective. Et c'est aussi ça qui m'intéresse au sein de l'ASLOCA et que je défends.
Alors justement, quand on a pendant 32 ans milité et travaillé au sein de l'ASLOCA, lorsque l'on se retourne en arrière, s'il fallait faire une sorte de bilan intermédiaire, puisqu'il reste encore des années et des années, lequel serait-il ?
Un bilan pour moi ? Oui. Beaucoup de satisfaction, aussi des frustrations parce qu'on ne gagne pas toujours, on n'arrive pas à tout résoudre. Au niveau politique et au niveau de la défense collective des locataires, il y a beaucoup de. On avance, parfois on fait un pas en avant, puis tout d'un coup on recule de nouveau. On avance sur un autre terrain, on recule de nouveau parce qu'il y a des attaques incessantes contre le droit du bail, contre le droit du bail qui protège les locataires et contre notamment cette loi, la LDTR, qui est une loi fondamentale à Genève et qui a changé beaucoup de choses. Donc on doit sans arrêt se défendre. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant, mais bon. On perd un bout, on remet l'ouvrage sur le métier et on continue.
Ouais. Alors on parlera... un petit peu plus loin dans l'entretien, vraiment de l'actualité. Mais Camille a déjà une question et puis j'en ai une derrière également.
Ouais, je suis curieuse de savoir justement, je pense que la procédure se fait de cette manière, l'ASLOCA se bat sur un point particulier de la LDTR ou un aspect particulier de la relation locataire-bailleur, et puis qu'ensuite les bailleurs trouvent une autre solution pour mieux, j'arrive pas à trouver de mots polis pour dire ce que j'ai envie de dire, pour mieux abuser voilà, les locataires. Non,
les abus sont quotidiens, enfin je veux dire, il y a énormément d'abus des bailleurs. Là, on parle bien du droit du bail qui protège les locataires. Le problème, c'est que les locataires doivent faire valoir leurs droits. Il n'y a pas de contrôle des loyers, par exemple. Il n'y en a plus depuis longtemps. Et si un locataire signe un bail avec un loyer trop élevé, il doit aller à la commission de conciliation pour contester ce loyer. Beaucoup de locataires ne le font pas, malheureusement.
Et pourquoi ne le font-ils pas, à ton sens ?
Je pense que beaucoup ont un peu peur de se défendre, d'aller bien au sûr. Tribunal. Ils ont peur d'avoir ensuite des problèmes avec leur bailleur. Et ça, c'est très problématique. C'est vrai que c'est un message à faire passer, c'est de dire aux gens... Défendez-vous. Les loyers sont trop chers, il y a des abus énormes. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation de pénurie que les bailleurs doivent tout se permettre.
Et est-ce que peut-on dire justement de la crainte, que, à juste titre, enfin on peut l'imaginer, hein, de la crainte d'avoir justement des mesures de rétorsion du fait des bailleurs par la suite. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est effectivement réel, ou est-ce que c'est plus de l'ordre un peu de l'irrationnel ?
Je pense que c'est de l'ordre de l'irrationnel. Parce qu'on nous a souvent parlé de liste noire, de locataires qui auraient contesté. Mais quand je regarde le nombre de locataires qui ont contesté des hausses de loyer, qui ont contesté leur loyer initial, qui ont demandé des travaux ou qui ont agi pour un autre motif, je veux dire, la moitié de la ville devrait être sur liste noire. Donc vraiment, je pense que ça, c'est irrationnel. Et qu'il faut rassurer les locataires.
Voilà, alors ça, c'est le message qu'on a envie.
Vraiment,
qu'on a envie de délivrer.
Vraiment.
Voilà. Quand on conteste, on gagne souvent, on gagne à demi. Comment ça se passe ?
Alors pour les contestations de loyer initiales, on gagne très souvent. On a de très bons résultats. C'est vrai que les abus sont tellement énormes qu'on a toutes les chances de gagner et de ramener le loyer à un niveau raisonnable. Il y a d'autres situations plus difficiles, enfin qui sont très difficiles même pour les locataires. Ce sont les résiliations de bail. Pour défaut de paiement, on sait qu'avec la précarité aujourd'hui, les difficultés que vivent beaucoup de personnes à Genève, certaines ne peuvent plus payer leur loyer, se retrouvent avec une résiliation de bail et se retrouvent avec une procédure en évacuation qui peut aller jusqu'à son terme. Donc non, ces procédures-là, on ne les gagne pas en tant que telles, puisqu'on n'a pas le droit n'est pas avec nous, mais par contre, on accompagne les locataires pour essayer d'obtenir une solution de relogement. Mmh. Donc on fait pas que du droit, on fait beaucoup d'accompagnement aussi de ce type-là.
Alors on va tout de suite donner, justement, parce que sur le site de l'ASLOCA, c'est extrêmement intéressant, on peut calculer d'une certaine manière le loyer auquel on devrait être soumis. Et tout ça est extrêmement bien expliqué sur le site de l'ASLOCA, dont l'adresse est www.asloca.ch. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça.
Non.
Alors justement, quand on comprend que l'on peut contester, déjà, comment est-ce qu'on le comprend ? On peut justement aller sur le site de l'ASLOCA et vérifier effectivement si on est dans le bon barème. Mm-hmm. Et puis ensuite, directement s'adresser en faisant un mail ou un téléphone à l'ASLOCA.
Nous avons tous les jours une permanence où on accueille des locataires ou des sous-locataires, hein, parce que nous défendons également les sous-locataires. Ou même des personnes qui viennent pour une autre raison parce qu'ils n'ont pour l'instant pas de bail. Donc nous défendons, nous recevons toutes ces personnes aux permanences et soit nous pouvons leur délivrer des conseils immédiats, justement leur dire voilà, vous pouvez demander tant de baisses, voilà comment va se passer la procédure, revenez nous voir si la réponse qu'on vous donne n'est pas satisfaisante. Ou alors on ouvre directement un dossier si le locataire le souhaite et que ça implique qu'il est nécessaire de faire une procédure que le locataire ne veut pas faire tout seul.
D'accord. Est-ce que ça suppose des conditions préalables de la personne qui vous contacte ou bien non, la personne vient vous contacter ?
La personne vient à notre permanence, s'adresse à la réception, devient membre sur place et peut tout de suite être reçue.
Voilà, donc il n'y a pas de dossier à compiler, à mettre en place.
Non, c'est
immédiat.
C'est immédiat, oui.
Voilà,
oui,
ça c'est important
fait.
Que les gens le
tout à fait.
L'entendent.
Non,
bien.
Les gens viennent, s'inscrivent et peuvent tout de suite être reçus.
D'accord. des questions sur l'actualité, Camille.
Sur l'actualité, oui.
Ou alors on revient, parce qu'après on allait revenir sur un petit peu l'essence de la problématique.
Ok, alors j'y reviendrai peut-être plus tard, mais sur l'actualité, j'ai du coup une question, c'est sur la... Quelles sont les principales difficultés que rencontrent aujourd'hui leurs locataires? Je pense que ce n'est pas toujours vis-à-vis du loyer. Parfois, je ne sais pas, on entend des histoires, des espèces de mythes urbains de gens qui essayent de contester des infiltrations d'eau puis, auxquelles on répond, mais vous aviez qu'à ouvrir vos fenêtres plus souvent. Enfin, il y a des abus qui font chaque jour. Quelles sont les situations que vous retrouvez le plus souvent?
Alors, les problèmes de travaux, enfin les problèmes d'infiltration d'eau ou d'autres défauts, d'autres dégâts sont extrêmement fréquents. Les bailleurs à Genève ne sont pas très enclins à dépenser de l'argent pour entretenir leurs biens. Ça, c'est assez. Et ça, je l'ai toujours vu. Hein. Donc, moins ils dépensent, mieux c'est. Je ne dis pas ça de tous les bailleurs, mais on va dire qu'il y en a beaucoup. Et du coup, il y a des locataires qui viennent nous voir après des mois de tentatives d'obtenir ce qui leur est dû et qui sont désespérés. Et à ce moment-là, on intervient, on écrit à la régie. On liste les travaux à effectuer et parfois, même souvent, on menace le bailleur de consigner le loyer. En disant, si vous ne faites pas les travaux dans un certain délai, le locataire va consigner son loyer et entamer une procédure.
Consigner, qu'est-ce que ça signifie ?
Consigner, ça veut dire payer son loyer à la caisse du palais de justice plutôt que de le payer à la régie. Donc c'est temporaire, bien évidemment. Après, il faut une procédure pour déterminer à qui revient l'argent. Mais c'est un moyen de pression qu'a le locataire pour obtenir ce qu'il demande.
Et ça, c'est une contrainte légale, c'est-à-dire que c'est le tribunal des beaux et loyers, par exemple.
Oui, alors c'est dans le code des obligations.
Ah, ok, ok.
Oui, c'est un droit qui est. Et le locataire a également le droit de demander une réduction de loyer s'il a subi des défauts, des nuisances, pour compenser justement la perte de jouissance.
Est-ce que ça, c'est rétroactif? Si par exemple, on constate qu'effectivement, depuis 3 ans, l'eau du robinet est trouble ou je ne sais quoi. Est-ce que le locataire peut dire, attendez, là, ça fait 3 ans que...
C'est rétroactif au jour de la demande. C'est-à-dire que si le locataire s'est plaint déjà précédemment, par écrit, pas forcément par écrit, mais il faut avoir une preuve, ça, en disant, j'ai des infiltrations d'eau, faites quelque chose, venez voir, etc., et que la régie ne fait rien, oui, on peut demander la réduction de loyer avec effet rétroactif au jour de la première demande.
Ouais. Camille.
Du coup, là, on apprend plein de choses. Ce qui m'en fait venir à cette question-là, hormis venir voir la SLOCA dès que vous recevez une lettre de votre bailleur ou même dès que vous devenez locataire, quels sont les conseils que vous donneriez aujourd'hui à un locataire pour connaître mieux ses droits, pour pouvoir mieux se défendre dans cette situation-là?
C'est vrai que le gros problème, c'est que beaucoup de locataires ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent souvent même pas qu'on existe. Bon, ça, c'est légitime, mais... c'est vrai que c'est assez ennuyeux. Il y a des locataires qui viennent trop tard, par exemple pour contester le loyer initial ou contester une hausse de loyer. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est de se renseigner, même si c'est pas auprès de la SLOCA, mais peut-être d'aller sur le site de la SLOCA, ne serait-ce que pour voir un petit peu ce qui existe. Mais je pense que oui, il faut réagir. En tout cas, il faut que les locataires, dès qu'ils reçoivent quelque chose ou qu'ils vivent quelque chose qui n'est pas normal, qu'ils réagissent et qu'ils ne se disent pas que c'est une fatalité.
On rappelle l'adresse, hein, www.asloca.ch, un site qui est vraiment très très bien fait. On y apprend par ailleurs que 90 000 adhérents en Suisse romande et 200 000 sur l'ensemble du pays, c'est quand même pas rien. Donc c'est vraiment quand même quelque chose de présent.
Ce que je vous dis là, ça concerne l'Asloca Genève, parce que les autres sections fonctionnent différemment.
Tout à fait. Oui, alors c'est bien de le rappeler, effectivement, aussi.
Et il faut, si on habite dans un autre canton, il faut se renseigner pour voir comment la SLOCA fonctionne et à qui on peut s'adresser dans le canton où l'on vit.
Tout à fait. On parlait tout à l'heure de mythologique liste noire. Y en a-t-il qui émanent de la SLOCA en disant il y a des régies dont on sait qu'elles sont problématiques? Et on les liste et on dit, voilà, les gens, faites attention, c'est des régies problématiques.
Et si oui, lesquelles?
Ah ben c'était clair, c'était évident qu'il fallait le dire.
Écoutez, alors, je pense que beaucoup de régies sont problématiques, ne font pas ce qu'elles doivent faire. Hein. Bon, derrière, il y a des propriétaires qui ne font pas non plus ce qu'ils doivent faire. Hein. Donc c'est pas seulement les régies. Parfois, les régies font ce que le propriétaire leur dit. Donc on peut pas non plus jeter la pierre qu'aux régies. Il y a aussi les propriétaires derrière.
D'accord.
On n'a pas de liste noire. On sait quelles sont les régies avec lesquelles on peut mieux discuter. Mais toutes les régies essayent de profiter d'une situation.
D'accord.
Donc, alors, on n'a pas de régie à recommander. Voilà.
Si je peux répondre comme ça. Pas de régie à recommander. Camille.
J'ai cru comprendre qu'une problématique qui se faisait, qui se posait souvent aujourd'hui, c'était la question de, bon, tout le monde sait aujourd'hui qu'à Genève, pour avoir un appartement, il faut un piston. A priori, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui obtiennent en tout cas leur appartement de cette manière. Quand on a un piston, je pense que ça rend plus difficile la contestation du loyer. Ça, c'est un problème que vous rencontrez souvent ?
Oui, effectivement. Il y a des personnes qui disent, ah, non, mais on m'a aidé, j'ai eu un coup de main à la régie, je veux pas poser de problème à la personne. C'est souvent ça. Alors on essaie de leur expliquer que leur intérêt est quand même de contester, surtout si le loyer est très cher et que mais bon, certains effectivement ils renoncent pour ce motif là.
Quel est le moment crucial? Est-ce que c'est l'état des lieux ou c'est là où le locataire doit être prévenu? Un bon locataire serait le locataire prévenu, conscient de ses droits, et au moment de l'état des lieux il peut justement relever, déceler et dire les choses.
Alors,
ou est-ce
oui.
qu'il y a d'autres temps qui sont un petit
oui,
peu
alors l'état des lieux d'entrée est très important. Et c'est vrai qu'il faudrait signaler au régisseur ou au représentant du propriétaire ce qui ne va pas, quels sont les défauts. Mais souvent, la personne qui représente le propriétaire ne veut pas noter le tout. Donc, le locataire soit refuse de signer l'état des lieux d'entrée.
Ça, on peut le faire.
Ou le signe en disant « je conteste le contenu ». L'état des lieux est incomplet, je le conteste. Mais après, il doit écrire. Il doit écrire un courrier à sa régie dans un délai maximum de 10 jours pour faire une liste de tous les défauts.
D'accord.
Et ça peut être joint à l'état des lieux d'entrée qui a été fait.
Ok, donc alors on voit qu'il y a quand même des leviers sur lesquels peser, mais il faut quand même être réactif,
voilà.
Et puis attentif et puis informé, comme vous
voilà.
l'avez dit.
Voilà, et puis il faut être attentif et ne pas se dire que les choses se passeront très bien, il faut vraiment être attentif. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours mal, mais il faut faire attention.
C'est un moment délicat, quoi.
C'est un moment délicat.
Ouais.
Mais la contestation du loyer initial peut se faire dans les 30 jours dès la réception des clés. Donc après ça, après la réception des clés, il faut effectivement, c'est là où c'est important à mon avis de venir consulter et puis de demander s'il est possible de contester ce loyer initial.
D'accord.
Parce qu'on sait que c'est comme ça que les loyers augmentent. L'ensemble des loyers augmente parce que à chaque changement de locataire, il y a de fortes augmentations.
Mmh.
Ah, donc l'ensemble des loyers augmente, c'est
ouais.
ça que je veux dire.
Mmh. Est-ce qu'on constate, tu l'as dit tout à l'heure, 32 ans de militance à la SLOCA, une évolution radicale ou pas des types de litiges ? Ou est-ce que ça reste à peu près toujours la même chose ?
Je pense que depuis une dizaine d'années, on a beaucoup plus de résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer. Mais ça, c'est lié à la précarisation. Sinon, je dirais... bien sûr, alors, il y a des résiliations de bail ordinaires qui sont données soit pour reloger un parent, donc souvent ce sont des prétextes. Il y a toute une série de... Oui, il y a eu des résiliations de bail pour augmenter le loyer, donc c'était clairement dit par le bailleur. Ça, on en a plus qu'avant. Plus qu'avant.
Okay.
Mais on a une législation quand même qui permet de faire annuler les congés, donc on essaye dans tous les cas possibles de faire annuler la résiliation de bail.
D'accord, Camille.
Ça veut donc dire qu'il y a des voies de recours quand on peut plus payer son loyer et qu'on résilie notre bail. Il y a des voies de recours.
Non,
qui sont
ça c'est le cas le plus problématique parce que la loi fédérale est très dure. Le bailleur est en droit de, s'il y a un retard dans le paiement du loyer, de donner un délai de 30 jours. Donc il fait une mise en demeure en disant si dans 30 jours vous n'avez pas payé le retard, nous allons résilier votre bail. Et si le bail est résilié, malheureusement, si le loyer n'a pas été payé, sauf s'il y a une informalité. Dans la rédaction de l'avis de résiliation, malheureusement, le congé est valable. Donc, on ne peut que conseiller à tout le monde, à tous ceux qui se retrouvent dans une situation de non-paiement parce qu'ils ont un problème passager, de tout faire pour soit emprunter cet argent nécessaire à payer le loyer, soit aller voir un service social, pour essayer d'éviter de ne pas payer dans ce délai de 30 jours. Mais on arrive quand même à obtenir beaucoup de retraits de résiliation parce que les bailleurs acceptent de retirer la résiliation une fois que le retard est payé. Mais il y a des cas où ce n'est pas possible, on ne l'obtient pas. On n'obtient pas le retrait et des personnes se font évacuer pour ça. Ouais.
Et puis on sait la difficulté via l'hospice qui de toute façon a une certaine somme qui peut être allouée au fait de payer le loyer. Et au-delà de cela, l'hospice n'intervient pas non plus.
Bon, et la difficulté de trouver un appartement déjà quand on a l'hospice, qui est pas évident.
Ouais. Revenons-en à la SLOCA. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des acquis sociaux qui sont là, que l'on garde? Est-ce qu'on est dans une phase où ces acquis sociaux sont en danger et il faut vraiment redoubler de lutte et de bagarre? Où est-ce qu'on en est dans ces acquis sociaux autour du droit au logement?
Oui, donc le droit du bail, le droit fédéral, avec la protection contre les hausses de loyer, les résiliations. Alors, il y a quand même toujours un danger. Effectivement, maintenant, il y a de nouveau... Enfin, les milieux immobiliers sont très bien représentés au Parlement fédéral. Il y a 3 initiatives parlementaires qui remettraient en question une petite partie, mais quand même, c'est dangereux. Donc, Carlos Omaruga en a parlé tout à l'heure. La bataille va être rude de nouveau pour éviter qu'il y ait une aggravation, enfin qu'il y ait une détérioration des conditions de protection des locataires. Et il a parlé tout à l'heure de lancer des référendums. Donc, si le Parlement fédéral adopte une loi qui détériore la situation des locataires, nous lancerons un référendum.
D'accord. Donc là, ça veut dire qu'on peut d'ores et déjà alerter tous les locataires, en tout cas autour de nous, pour dire qu'effectivement, ces acquis sont en danger et qu'il faut rester en alerte.
Alors, tous les acquis ne sont pas en danger, mais ils grignotent toujours petit bout par petit bout et on doit être prêt à lancer les référendums. Heureusement qu'on a ces moyens, ces outils démocratiques, soit en lançant des initiatives, ce qu'on vient de faire, tant à Genève qu'au niveau fédéral, soit en lançant un référendum.
Camille.
Oui, justement, je trouvais que la transition était facile, justement, parce que quand il y a des attaques d'un côté, il y a aussi une force de proposition de cette association-là. Il y a 2 initiatives qui sont en cours de préparation slash relativement bientôt en votation, je crois. L'initiative avec le PS et Ensemble à Gauche pour des logements abordables pour tous et tous, qui vise, je crois, à introduire des contingents dans la construction de nouveaux logements.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et puis aussi une nouvelle initiative qui se lance avec le cartel intersyndical pour donner des fonds à la Caisse de pension de l'État de Genève, la Caisse de pension des fonctionnaires. En, je crois, cédant une partie du PAV.
Exactement.
Pour financer cette caisse de pension. Ouais. Vous pouvez nous en parler davantage de ces 2 initiatives, peut-être?
Alors, les 2 initiatives, il y a 2 initiatives parallèles pour obtenir, enfin, que se construisent plus de logements abordables. Et ces 2 initiatives font malheureusement l'objet d'un recours à la chambre administrative. On attend donc de la Cour de justice, parce que les milieux immobiliers ne s'avoue jamais vaincu, essaye toujours, et donc on attend. Donc on espère que ça va être mis en votation d'ici 2018, peut-être fin 2018, mais il y a encore l'étape du tribunal fédéral si jamais. Donc on verra s'ils vont jusque-là. Et puis pour la dernière initiative, elle est en cours de signature. Donc effectivement, c'est comme vous l'avez décrit, il s'agit de donner à la CPEG des terrains pour qu'elle puisse construire du logement et ainsi à des loyers abordables. Et ainsi se recapitaliser tout en construisant des logements. Parce qu'aujourd'hui, on parle de donner tant de milliards à la CPEG sans rien en faire d'autre.
C'est 2 initiatives que je trouve intéressantes parce qu'elles répondent à la problématique de aujourd'hui, il y a de l'immobilier qui se fait à Genève, mais qui ne correspond absolument pas aux besoins des locataires.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on voit bien dans les statistiques, le 50% des nouvelles constructions ces dernières années, ce sont des PPE. Donc, des appartements en propriété par étage et des villas.
Propriété par étage, vous pourriez éclaircir rapidement.
Alors, c'est un immeuble. Il y a des immeubles qui sont propriétés d'une seule personne ou d'une seule société et qui sont indivis, c'est-à-dire que l'immeuble n'est pas coupé. Propriété par étage, c'est quand il y a des lots de propriété et chaque propriétaire est propriétaire de son appartement. Et en fait, on construit beaucoup de propriétés par étage à Genève parce que les milieux immobiliers, ils s'y retrouvent beaucoup plus. Ils font beaucoup plus de bénéfices en vendant des appartements qu'en louant des appartements. Même si en louant des appartements, ils font déjà beaucoup de bénéfices.
On a récemment remis le prix du plus triste projet de rehaussement des immeubles à Genève. On a vu des projets tout à fait singuliers ou jusqu'au plus absurde dans mon paquet où une personne a fait construire une villa sur un toit et voilà, il a fait passer ça sur un logement collectif, je crois, ou en tout cas une villa jumelle, et puis que finalement il en a l'usufruit lui seul. Et c'est-à-dire que voilà, ces histoires de rehaussement sont une imposture. Et deuxième volet de la question, juste, il est 6h05, donc on va malheureusement devoir dans pas longtemps arrêter l'interview là, mais bon, voilà. Est-ce que les éco-quartiers seraient parmi les solutions à apporter à la crise, au problème du logement à Genève.
Vous parlez des écoquartiers.
Oui.
Oui, bien sûr, mais c'est sur des périmètres non construits encore. Hein. Mmh. Donc, bien sûr, c'est une bonne solution. Mais si on parle de la ville où les propriétaires cherchent à densifier, à construire, à surélever les immeubles, ce n'est jamais une bonne solution. Parce que de toute façon, ces appartements-là sont beaucoup trop chers. Donc, ils ne correspondent pas aux besoins de la population. Et donc, on a juste quelques appartements chers de plus sur le marché.
Voilà,
et c'est pour ça qu'on s'y oppose. Dans des cas où ça paraît vraiment inadéquat. En plus, une densification telle est souvent totalement inutile et déplacée. Oui, puis ça change aussi. On parlait de gentrification tout à l'heure à l'atelier urbanisme. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on construit, qu'on densifie en ville, on construit des appartements chers et ça modifie la
structure,
de
l'appartement. Mais voilà, c'était la question de se dire justement, on a le contre-exemple avec ces rehaussements qui justement favorisent la gentrification et qui donc vont jeter aux confins de la ville des personnes.
Exactement.
Et à l'inverse de ça, justement, on voit quand même qu'il y a cette dynamique des écoquartiers, il y aurait des solutions
sûr.
Donc on n'est pas en manque de solutions, on est en manque de volonté.
Mais sur des nouveaux périmètres, on ne peut pas le faire en ville.
Tout à fait. Camille.
Non, je voulais juste citer rapidement en termes de d'autres solutions. Pour sortir de cette relation-là locataire-bailleur ou pour la rendre plus saine, il y a aussi les coopératives d'habitation. Il y a d'autres micro-initiatives ou plus grandes initiatives qui proposent aujourd'hui des solutions qui sont autres que se faire avoir par son propriétaire.
Tout à fait.
Son
et les coopératives doivent être encouragées et il doit y en avoir plus, c'est clair. C'est une bonne solution.
On va citer les camarades d'équilibre de la coopérative d'habitation équilibre qu'on a interviewé récemment et qui sont parmi les personnes qui nous plaisent beaucoup, hein, avec là aussi également une interrogation sur la mobilité, sur le rapport justement à la mobilité, à l'habitation, où là on n'a pas plus de voitures même individuelles, mais ce sont des véhicules collectifs. Enfin, y a beaucoup de choses qui sont extrêmement vivaces, en tout cas.
Absolument.
On va devoir conclure ici, pour aujourd'hui en tout cas, parce qu'il est l'heure. Il est l'heure de la conférence gesticulée à laquelle il faut qu'on intervienne. Mais ça veut dire qu'on va devoir reparler de ces sujets-là parce qu'ils sont extrêmement importants. Mais d'ores et déjà, on peut saluer tout le travail qui est fait depuis maintenant 75 ans de la SLECA. Donc Irène Buche, toi-même, eh bien, on salue ton travail également depuis 32 ans à la SLECA. J'imagine encore pendant des années. A priori, il n'est pas question de...
Encore quelques années, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de la retraite.
Si, juste pour en terminer, s'il fallait dire quels sont les prochains gros défis, gros travaux de la SLECA qui arrivent, lesquels seraient-ils ces défis ?
Bon, disons que c'est d'intensifier la défense collective, le travail fait avec... Parce qu'on a des associations de locataires qui sont membres de la SLECA, et donc d'intensifier le travail avec ces associations... Et de continuer à défendre les droits acquis, comme vous disiez, mais même d'essayer d'améliorer la situation des locataires au niveau légal. Donc des défis, on en a toujours et on en a de grands devant nous.
Et puis à la SLECA, eh bien, on peut lancer un appel. Devenez membre, engagez-vous et
re-engagez-vous
à la SLECA. Le site internet, c'est www.asleca.ch. Irène Buche, merci beaucoup, à moins qu'une dernière question ne surgisse.
Sur votre parcours, donc 32 ans comme juriste à la SLECA, est-ce que vous avez un cas que vous auriez défendu individuellement, que vous trouvez particulièrement soit saillant, soit pertinent, soit représentatif des dérives qui se font aujourd'hui dans les relations locataire-bailleur.
C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y en a beaucoup. Un cas particulier, non. Ça pourrait faire l'objet d'une autre.
Mais
si vous le souhaitez.
L'invitation est lancée.
Là, ça me demanderait aussi.
Et puis la plus grande victoire. Votre plus grande victoire personnelle au sein de la SLECA.
Non plus, c'est pas. Mm-hmm. Je peux pas vous donner une victoire. On a eu beaucoup de petites victoires. On travaille tous les jours sur différents dossiers, différentes situations, et on a des victoires tout le temps.
On a des victoires tout le temps.
Mais oui, c'est vrai. Et donc, je ne peux pas vous dire quelle est ma plus grande victoire.
Alors,
j'y réfléchirai.
Un manuel du bon locataire, c'est 1. Informe-toi. 2. Protège-toi. Deviens membre de la SLECA, par exemple. Et 3. Go, on conteste.
On conteste.
Exactement.
Merci beaucoup Irène Buch, juriste à la SLOCA depuis 32 ans. À la prochaine, j'espère.
Et j'espère
bon
aussi.
Et courage pour la
et
suite.
Merci
en tout
beaucoup.
Cas, avec beaucoup de plaisir. Voilà, nous on fait une petite pause musicale. On reviendra avec la suite des opérations. Il y a beaucoup de choses à faire et on a peu de temps. Donc on va voir comment est-ce qu'on va réaliser tout ça. Il faudrait qu'on parle encore sur VAP notamment. Sur VAP, qu'est-ce qui se cache derrière le mystérieux acronyme. Mais il va avoir le début de la conférence gesticulée. On va voir, on va se diviser, on va se multiplier et on va croître. C'est dans la Bible.
Oui, beaucoup de poids et de pouvoir, oui. Oui, c'est tout à fait ça, la carte. On ne mesure pas parce que, à la fois,
c'est j'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi, j'ai planté coco. Coco, ça pousse pas. Moi j'ai planté banane, banane ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes, légumes tu ne peux pas pousser. Moi j'ai planté agrumes, agrumes tu ne peux pas pousser. J'ai de petits problèmes dans ma plantation.